Accent d'Europe, Catherine Potet.
Bonjour, au sommaire aujourd'hui, l'éducation sexuelle à l'école, un sujet encore tabou dans certains pays européens. C'est le cas de la Pologne, comme nous l'expliquera dans quelques instants notre correspondante à Varsovie, Maya Szymanowska. Au Portugal, en revanche, l'éducation sexuelle trouve peu à peu sa place au sein de l'école, nous dira Marilyn Darcy. Au sommaire également, notre rendez-vous hebdomadaire avec un site européen d'information sur le net. Aujourd'hui, le courrier des Balkans. Le portrait d'Accent d'Europe, il sera consacré à l'acteur et metteur en scène roumain Ion Caramitru. Enfin, carnet de voyage, dernière escale à Venise avec l'aquarelliste français Fabrice Moirot. C'est une question sensible dans un pays où la loi sur l'avortement est extrêmement restrictive et où l'on compte environ 200 000 avortements illégaux chaque année. En Pologne, l'éducation sexuelle et notamment l'information sur la contraception demeurent un sujet tabou, mais une organisation non gouvernementale, Ponton, tente de faire avancer le débat. À Varsovie, le reportage de Maya Szymanowska.
Anna Kjewacz donne rendez-vous dans un grand café de Varsovie car la presse n'est pas autorisée à suivre dans les écoles le groupe des enseignants en éducation sexuelle Ponton auquel elle appartient. Cette organisation tente, avec un succès grandissant, d'instruire les jeunes sur ce sujet qui demeure tabou en Pologne.
Officiellement, il existe à l'école une matière appelée l'initiation à la vie en famille, où l'on devrait aborder ces questions, mais cette matière n'est pas obligatoire. Ce qui complique encore les choses, c'est que les jeunes qui n'ont pas 18 ans doivent présenter une lettre de leurs parents leur permettant d'assister à ces cours. En pratique, dans la majorité des écoles, surtout dans les petites villes où l'on manque d'éducateurs formés, il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle, ou alors ils sont dispensés par des personnes peu compétentes. Il n'est pas rare que ce soit des ecclésiastiques qui par ailleurs ont la charge des cours de religion. Les questions concernant la sexualité sont alors présentées d'un point de vue très subjectif, alors qu'elles devraient être séparées de la religion.
Ponton a été créé voilà 7 ans pour pallier ce vide éducatif. Le groupe, composé d'une vingtaine d'étudiants bénévoles, dispense des formations dans les lycées et les collèges. Ces bénévoles racontent que les jeunes, gênés au début du cours, trouvent très vite un langage commun avec les éducateurs qui sont à peine plus âgés qu'eux. La demande est grande, mais pour l'heure, il n'y a pas de volonté politique pour faire bouger les choses, même si des députés de la droite libérale au pouvoir, comme Magdalena Kochan de la plateforme civique, admettent la nécessité d'un programme d'éducation sexuelle dans les écoles.
L'éducation sexuelle n'en est qu'à ses débuts en Pologne. Nous manquons de professeurs, car il faut le dire, la sexualité et les questions concernant l'identité sexuelle demeurent tabous ici. Et je comprends ces professeurs qui sont gênés d'aborder ce sujet et doivent se faire violence pour en parler. Mais nous devons mettre en place ce type d'enseignement, car les jeunes doivent être mieux informés pour éviter de se retrouver devant le choix dramatique que constitue la décision de se faire avorter.
La députée ajoute cependant que ses opinions n'engagent qu'elle et que son parti n'inscrira pas ce point au programme. La raison, personne ne veut se mettre à dos la très puissante Église catholique qui voudrait garder un droit de regard sur l'éducation à la vie en famille et n'admet pas l'idée de l'éducation sexuelle des jeunes perçue par la hiérarchie ecclésiastique comme une invitation à la débauche. Anna Kjewacz de Ponton, pourtant catholique, connaît ce problème.
Je ne suis pas une catholique ordinaire. Mes opinions sont très libérales. Mais nous sommes plusieurs à essayer d'œuvrer pour que l'Église, la hiérarchie ecclésiastique, change en ce qui concerne par exemple l'emploi du préservatif et la prévention du sida. Pour ma part, je n'y vois pas de contradiction avec ma foi. Je suis favorable à ce qu'on appelle les méthodes artificielle de contraception et en même temps je me considère comme catholique. Chacune de nous, après un examen de conscience, doit pouvoir décider ce qui est le mieux pour elle.
L'association Ponton sortira dans la rue le 8 mars, le jour de la fête des femmes, pour une manifestation ludique, mais Anna Kjewacz admet que ce ne sont là que des actions ponctuelles. Reste le site internet de l'organisation www.ponton.org.pl où des articles expliquent des points importants concernant la contraception et la prévention du sida. Il y a aussi le téléphone vert de Pantone qui sonne de plus en plus souvent.
Au Portugal, à présent, l'éducation sexuelle fut aussi pendant longtemps inexistante, en raison notamment de la forte pression de la religion. Mais depuis l'année dernière, cette matière est obligatoire pour les plus grands. Retour sur un débat qui a fait des vagues avec notre correspondante à Lisbonne, Marilyn Darcy.
Il faut attendre 2005 pour que les choses s'accélèrent au Portugal. La découverte d'un manuel d'éducation sexuelle dans une école choque des parents qui tombent des nues. Quoi ? On parle sexe à l'école, la polémique s'installe et le débat s'instaure. Au niveau national, le gouvernement crée alors le groupe de travail sur l'éducation sexuelle et la santé. Le GTS, des psychologues, pédiatres, pédagogues et médecins sont chargés de regarder la sexualité des Portugais en face. Ils réalisent des enquêtes, écoutent parents, enseignants, enfants et passent au crible des dizaines de livres et manuels rédigés sur le sujet. 2005, c'est aussi l'arrivée au pouvoir du socialiste progressiste José Socrates. Socrates fait de la libéralisation de l'avortement l'un de ses premiers objectifs. Jamais le Portugal n'a abordé aussi ouvertement les questions de la sexualité et de l'IVG. Le pays découvre l'étendue de l'ignorance et la force des tabous. Une sorte de consensus se fait alors jour sur la nécessité de renforcer la prévention et donc l'éducation sexuelle. Et puis l'impensable se produit, l'avortement est libéralisé. Le GTS, lui, ne perd pas de temps et ses recommandations sont appliquées par le gouvernement. L'éducation sexuelle est rendue obligatoire depuis 2007 et confiée à 12 000 professeurs spécialement formés pour ne pas rester dans le médical. Pour les élèves les plus âgés, la matière est même évaluée en cours. Officiellement, 80% des établissements dispenseraient l'enseignement, mais il s'agit trop souvent du minimum obligatoire, une heure par mois seulement. Les résistances sont donc réelles, beaucoup de crucifix sont toujours sur les murs des classes pour l'église, la sexualité est une affaire de famille, et le cardinal patriarche de Lisbonne rappelait récemment les vertus de l'amour et de la chasteté. Les jeunes, eux, voient les choses autrement. Lors de leur manifestation en janvier dernier, l'une de leurs revendications était justement d'exiger l'éducation sexuelle dans leurs écoles. Une grande première qui en dit long sur le chemin à parcourir et sur l'évolution des mentalités.
Chaque vendredi, notre rendez-vous avec un site d'information européen sur Internet. Aujourd'hui, le courrier des Balkans avec Simon Rico. Au sommaire, bakchiche à l'hôpital, port du voile sur les photos de passeport et tout d'abord du tennis avec la victoire du Serbe Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Un événement pour la Serbie, bien sûr.
Alors Novak Djokovic a remporté la finale de l'Open d'Australie le 27 janvier. C'est surtout le dimanche matin, en fait, pendant les 3 heures de la finale, tout Serbe était devant son poste de télévision pour regarder le match qu'il opposait au Français Joe Wilfried Tsonga. Et il a été suivi par l'ensemble de la population serbe, en fait, qui s'est trouvé un nouveau héros en la personne de ce jeune tennisman de 20 ans. Et en fait, on se rend compte que les deux leaders serbes, donc Tomislav Nikolic, le candidat ultranationaliste, comme le président sortant Boris Tadic,
qui a été
finalement réélu de justesse dimanche dernier, ont tous les deux tenté de récupérer politiquement le succès de ce jeune champion.
Alors sur le site de Courrier des Balkans ce mois-ci, il y a un long article aussi sur les bakchiches à l'hôpital public en Roumanie. Donc l'hôpital public en Roumanie, ce n'est pas gratuit comme on pourrait le croire.
Ah oui, c'est surprenant, mais alors que les soins sont gratuits, en réalité, on se rend compte que tous les patients sont obligés de payer les membres du personnel hospitalier à qui ils ont affaire, du brancardier au chirurgien en passant par l'infirmière qui va changer les draps. Donc au final, il y a un jeune père qui raconte dans un journal de Bucarest qu'il a dû débourser 700 euros pour l'accouchement de sa femme, 100 euros pour le médecin qui a permis l'accouchement, 10 euros à ses assistants, et ensuite il a fallu payer les infirmières pour les piqûres, les massages ou changer le linge de chambre de sa compagne. Donc voilà, quand on sait que le salaire moyen en Roumanie est d'à peine plus de 200 euros, on se rend compte que ces 700 euros de bakchiche, ça correspond à plus de 2 mois du salaire moyen.
Et les médecins ont un salaire qui dépasse à peine les 200 euros. C'est bien là tout le cœur du problème.
Voilà, tout le cœur du problème, en réalité, c'est que les salaires du personnel hospitalier sont extrêmement faibles et que eux-mêmes sont amenés à payer des bakchiches s'ils veulent obtenir un meilleur poste. Donc le serpent se mord la queue et chacun paye des bakchiches à quelqu'un d'autre.
Alors le journal roumain, lui, propose une solution. qui est peut-être une manière de sortir de la crise, qui est ce qui se pratique apparemment en Hongrie, où là on a essayé de faire valoir un peu plus de transparence dans les hôpitaux. Hein.
Voilà, alors en réalité, le journaliste propose de mettre fin à cette pratique frauduleuse en ayant recours à une sorte de bakchich institutionnel, c'est-à-dire qu'en fait, en Hongrie, les praticiens ont le droit de recevoir jusqu'à 100 euros maximum par patient, non imposable. Et donc voilà, il se demande si en Roumanie ce serait pas une éventualité à envisager afin de mettre fin à ces bakchiches qui n'ont là pour le coup aucun montant maximum.
Alors enfin dernier sujet que vous avez choisi pour nous dans Courrier des Balkans, c'est le port du voile en Macédoine, puisqu'alors qu'on débat énormément en Turquie de la question du port de voile dans les universités, en Macédoine, on autorise les photographies avec le voile pour les passeports.
Voilà exactement, alors c'est depuis le 31 décembre, le ministère de l'Intérieur, il a choisi en fait d'assouplir la législation concernant les photos d'identité, et à la demande d'une association musulmane, il a décidé finalement que chacun pourrait proposer une photo voilée.
Alors c'est une autorisation qui est très strictement réglementée. Hein.
Il y a un schéma qui a été distribué au personnel du ministère de l'Intérieur et donc qui stipule que le voile doit bien laisser apparent l'ensemble du visage du haut du front au menton.
Ce qui est un petit peu curieux, c'est que le passeport, ça sert à voyager à l'étranger, mais on ne sait pas si ce passeport va être accepté à l'international.
Voilà, alors la grande question est de savoir si finalement les Macédoniens pourront voyager voilés sur leur passeport, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, la question de l'identité est très importante pour les voyageurs. On sait qu'il y a des règles de plus en plus strictes, donc on ne sait pas s'ils pourront se déplacer comme avant avec ce passeport voilé.
Simon Rico du Courrier des Balkans, propos recueillis par Frédéric Lebel. Pour en savoir plus, rendez-vous à cette adresse internet balkan.courrier.info. Le portrait d'Accent d'Europe, c'est aujourd'hui celui d'un homme de théâtre, le Roumain Ion Caramitru, qui à 66 ans crée l'événement en revenant sur les planches du Théâtre National de Bucarest dans le rôle d'Édouard III, portrait signé de notre correspondante à Bucarest, Marion Guyon-Varch.
Ion Caramitru, c'est avant tout une voix grave, chaude, profonde. Une voix qui déclame des tirades shakespeariennes depuis 40 ans. Une voix qui a toujours défendu les artistes et la création théâtrale, et qui, dès les premières heures de la Révolution, réclama liberté et démocratie. À 66 ans, le charismatique acteur et metteur en scène garde une place à part dans le monde culturel roumain. Sa carrière, il la commence en pleine époque communiste. Membre de la troupe du théâtre Boulandra, il enchaîne les pièces. Et surtout, il trouve le rôle de sa vie, celui d'Hamlet. Hamlet, je l'ai interprété plus de 200 fois, aime à raconter l'acteur, qui a déclamé le fameux « to be or not to be » sur les scènes du monde entier. En 2006, le quotidien The Times l'a même classé parmi les 10 meilleurs Hamlets de l'histoire. Mais la scène, il l'aime aussi politique. Et lorsqu'éclate la Révolution, Ion Caramitru est aux avant-postes. Le 22 décembre 89, il est l'un de ceux qui annoncent à la télévision la chute du régime et s'implique sans compter dans la toute nouvelle démocratie roumaine. De 1996 à 2000, il occupera même le poste de ministre de la Culture. Aujourd'hui encore, il continue à jouer un rôle important dans la société civile et critique fermement la politique roumaine actuelle. Mais Ion Caramitru reste d'abord et avant tout un artiste passionné. En 90, il prend la tête du théâtre Boulandra, puis la direction de l'Union des théâtres roumains. Il joue et met en scène des spectacles sur les scènes du monde entier. Figure à l'affiche de nombreux films étrangers, comme Mission Impossible, ou plus récemment, Amen. Surtout depuis 2005, l'élégant sexagénaire a pris la direction du Théâtre National de Bucarest, où il ambitionne de combiner classique et création contemporaine roumaine. Être ou ne pas être, s'interrogeait Hamlet. Caramitru, lui, ne se pose pas la question. Il continue, comme le prouve son retour sur les planches dans le rôle d'Edgar III et son implication constante sur la scène culturelle, à être, intensément, un amoureux du théâtre et de l'art.
DJ Vadim, Big Red en pure combinaison. À Paris, de l'Angleterre à la France. Respect maximum, large.
Le choix musical d'Accent d'Europe aujourd'hui, DJ Vadim. Un titre que vous pouvez aussi écouter sur la web radio Europa Vox. DJ Vadim, Kill Kill Kill.
Dire ce qui me passe par la tête. Je crois que tout le monde peut me la mettre. Est-ce que je suis devenu paranormé, c'est net. Comme un Ivalecte, trouble mon maître. Enfermé, cabotonné, camisolé, emprisonné, empoisonné, bien affiché, bon enroulé, démystifié, alcoolisé, métallisé, dévalisé, banalisé, analysé, verbalisé. Pénalisé, verbalisé, pénalisé. Je devine qui les comptes démonisés. Je devine que les caméras vont viser. Ça, c'est le bronzé. Ce n'est même pas la peine de demander qu'un appartement descend. Quand tu parles avec un accent, bim, on te descend. Si je me tue à le malheur de leur ramener qu'un peu trop vite, tu redescends.
à niveau systématiquement. Il te rabaisse direct à ton rang, juste pour info, ce sont des méchants. Fais vise le manuel du mec méfiant. Jared fait galant, c'est l'assaut. Pour les entraîne tout le bord d'amour. Section rouge, on devant le trou. Attention, bouge de la mec, c'est chaud. Kill, 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 madame, madame, madame. Pour tout le monde, c'est le game over. Fuck up, game city, jet select. T'as des big bad, pour la box center. Madame, 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 kill, kill. Balance tes missiles, sir. Vise les gars dans le mille, mille. Dépuise la ville, ville. Kill, 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 madame, madame, madame. Pour tout le monde, c'est le game over. Fuck up, game city, jet select. T'as des big bad, pour la box center. Madame, 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 kill, kill. Vise les gars dans le mille, mille. Balance tes missiles, sir. Dépuise la ville, ville. Ainsi qu'à mon intellect, de ce dont je me délecte. Dans sa peau, dans le sourire, c'est que les bonnes délectes. MFTT, de Badaba View, View, MUCK, War of You. Je vois tous les dirigeants à genoux, le gouvernement à genoux, tous les politiciens à genoux, le premier ministre à genoux, coupable de cynisme à genoux, tous ces putains de fascistes à genoux. Prêt à tout niquer, alors niquer tout, avant que cette merde retombe sur nous. Pratique le verbe de ninjutsu, je fume de l'herbe et du shit.
Accent d'Europe. Catherine Potet.
Et notre carnet de voyage. Pour la dernière fois cette semaine, nous retrouvons l'aquarelliste français Fabrice Moirot qui évoque pour nous la ville de Venise. Il a publié Venise Aquarelle aux éditions du Pacifique. Fabrice Moirot qui a pu visiter et peindre un palais habituellement fermé au public. Il raconte au micro de Laurent Berthaud.
J'ai eu l'occasion donc et la joie de pouvoir visiter le Palazzo Barbaro à côté du pont de l'Accademia sur le Grand Canal. C'est un endroit encore habité, au moins partiellement pour certains de ses étages. Un vrai palais du XIVe siècle, absolument bouleversant de beauté. Et tout est là. Vous avez les grandes salles avec des miroirs vénitiens, avec des lustres vénitiens, avec des peintures de doges sagement rangées, des peintures qui peuvent faire 7 ou 8 mètres de long. Vous avez une bibliothèque du XVIIIe siècle intacte, qui est une merveille de menuiserie pour les meubles, et puis évidemment pour ce qu'elle contient. Et vous avez tout ce qu'il faut dans un palais vénitien digne de ce nom, une gondole préservée, je sais pas, du XVIIIe siècle, ciselée, abondamment sculptée, noire, mais d'une beauté magnifique. Vous avez un accès au Grand Canal qui se termine par une grille en fer forgé, sans doute la plus belle grille, en tout cas gothique, de Venise. Et puis, c'est partout cette beauté. Finalement, je m'attendais à voir des choses surchargées, un peu lourdes, beaucoup, beaucoup de décors partout. Mais les pièces sont grandes et il y a un bon goût, une retenue que j'ai admirée. C'est un endroit, Palazzo Barbaro, où Monet a peint plusieurs peintures quand il a fait son séjour à Venise, notamment des vues de la Salute. Donc j'étais quand même très ému à mon tour de poser un peu de couleur sur du papier à cet endroit. Et aussi l'illustre aquarelliste, alors là j'étais encore plus bouleversé, l'illustre aquarelliste américain qui s'appelle Sargent, John Sargent, qui était un des meilleurs aquarellistes que l'humanité ait produit, qui lui a fait énormément d'aquarelles dans Venise et aussi beaucoup dans ce palais. Il y a des vues où on voit des femmes dans des couloirs, des contre-jours absolument sublimes. Voilà, donc j'ai eu une certaine pression, mais j'ai fait un dessin, même deux, à cet endroit.
C'était Accent d'Europe, une émission réalisée par Guillaume Ploquin, mise en onde par Cyril Etienne. Très bon week-end. Lundi, vous retrouverez Frédéric Lebel pour une émission dans laquelle il sera notamment question de lien social.